Ciné Club Actu.
Alors, bonjour à tous dans ce podcast Ciné Club Actu, le dernier de l'année, c'est triste. Et vous aurez reconnu que c'est moi, Maxime, qui ouvre ce podcast et non pas Carla, comme d'habitude. Et c'est parce que Carla, malheureusement, est absente. Et oui, la dernière fois, on avait fait une émission sans invité. Aujourd'hui, une émission
sans
une, voilà, sans une des animatrices. Non mais... On va finir tout seul à la fin, au prochain épisode.
Enfin, mais de toute façon, oui.
Oui, littéralement, du coup, ouais, c'est...
C'est la crise, ma bonne dame.
Et oui. Eh bien, vous venez d'entendre notre formidable invité de Thème Ciné.
Exact. Je suis Thème Ciné. Et littéralement.
Les Thème Ciné. Une très bonne émission que vous pouvez écouter sur Radio Campus Pau. Et excusez-moi, je vais retrouver votre prénom dans un...
Mais c'est Tom. C'est Tom.
Tom. Ah, oui, Tom. Tom est venu nous parler de beaucoup de choses. Et Camille va l'interviewer. Bonjour Camille, bien sûr.
Bonjour.
Voilà.
Il fallait dire aussi, vous êtes sur Radio Campus Pau.
Voilà. Ah oui, vous êtes sur Radio Campus Pau. Vous pouvez l'écouter sur toutes les zones.
Désolée, ça risque d'être chaotique aujourd'hui.
Oui, c'est un peu à l'improvisation. Mais c'est la dernière de l'année, voilà, tranquillement.
C'est la dernière de l'année. Oh, mais c'est une habitude à prendre, t'inquiète pas.
Hein. Alors du coup, Tom, est-ce que tu peux nous parler de ton rapport au cinéma?
Oh, direct. Alors, au commencement, il n'y avait rien. Et de ce rien, vint un tout. Non, ok, je remonte un peu loin. Mais, le cinéma, c'est... je baigne dedans depuis assez petit, parce que j'aime tout simplement beaucoup, beaucoup, beaucoup les dessins animés, déjà. Et mon rapport au cinéma n'est malheureusement pas aussi complet que j'aimerais, parce que... je vais assez peu au cinéma et j'ai pas trop le temps, ou alors des fois je ne prends tout simplement pas le temps de voir les films. C'est assez fou. Chez moi, j'ai une grande DVD tech et à côté de mon lit, il y a une pile, je pense, d'une trentaine de DVD qui sont juste là, et c'est juste les films que je dois voir. C'est c'est juste que je prends pas le temps et tout ça.
Ah oui.
Alors que c'est vraiment un média que j'aime énormément. Simplement, c'est qui procure, c'est le médium qui me procure le plus d'émotions, je trouve, avec évidemment la littérature, bien sûr, et les jeux vidéo, parce qu'il faut pas déconner non plus.
Au final, l'art avec une grande A, quoi.
Ah, bah, bien sûr, l'art. Bien sûr.
Avec Mario Kart.
Ah, Mario Kart, les émotions quand j'humilie mes adversaires, on s'éloigne du sujet. C'est. Ils sont grands.
Ah, ça brise des amitiés.
Ah, bien sûr. C'est terrible.
Du coup, est-ce que tu pourrais nous parler de ton film préféré?
Eh bien, mon film préféré, c'est tout simplement le film qui m'a fait aimer le cinéma, et c'est Oh Brother, des frères Cohen, Joël et Ethan Cohen.
Le podcast, d'ailleurs, des frères Cohen.
Exact, mais parce que leur cinéma est absolument fantastique. Et c'est un film que j'ai dû découvrir entre mes 8 et 10 ans, je crois. Et parce que c'est ma mère qui m'a fait découvrir ces réalisateurs. Et vraiment, ça a été, je pense, un de mes premiers vraiment chocs cinématographiques. Enfin, du plus loin dont je me souvienne, ça a été un des plus puissants, où je me suis vraiment rendu compte de la puissance du cinéma. Tout simplement parce que c'est un film qui déjà moi, me fait toujours mourir de rire. Et que le jeu des acteurs est extrêmement théâtral. Et ça, j'aime beaucoup. Enfin, je trouve que par rapport à d'autres films, même d'autres films des frères Cohen, tout simplement, le jeu des acteurs est très théâtral.
Ah oui, au casting, d'ailleurs, il y a George Clooney, je crois.
C'est ça, t'as George Clooney, t'as John Turturro, et t'as Tim Blake Nelson.
Ah oui, je vois.
Et vraiment, chacun ont leur propre personnalité, et je trouve ça fantastique. Tim Blake Nelson, qui est le petit un peu effacé, qui essaie de pas gérer les conflits. Oh les gars, ça va, tout va bien se passer. John Turturro, qui lui est plus rentre dedans, est plus un peu plus fou dans sa manière de jouer. Et en fait, c'est celui-là où je me suis dit, waouh, mais être acteur, en fait, c'est fantastique. D'ailleurs, et c'est ce qui m'a un petit peu poussé à essayer de faire du théâtre, ce qui a marché. Hein, j'ai commencé un peu le théâtre, et là, ça fait des années et des années que j'en ai pas fait, parce que bah, quand on est étudiant, bizarrement, on a de moins en moins de temps.
Oui, c'est vrai.
Je sais pas, c'est bizarre, c'est comme ça. Mais pourtant, il faudrait que j'en refasse.
Mais il y a du théâtre à l'université.
Ouais, mais le truc, c'est que bah, je peux pas faire plein de clubs en même temps.
Mmh. Et, on fait de la publicité pour tout. Et sur
c'est ça.
C'est incroyable.
Mais c'est ça, le truc, c'est que bah, du coup, moi, je suis déjà à la radio. Et comme j'ai une gestion du temps extrêmement chaotique, hein, c'est, je sais pas si ça se sent, mais les émissions de Thème Ciné qu'on a bouclées 15 minutes avant de commencer à enregistrer,
ah oui.
Waouh, c'est assez impressionnant. Je suis pas du tout quelqu'un de très sérieux dans mon travail. Et du coup, forcément, j'aimerais bien hein, faire du théâtre. Mais bon, c'est un manque de temps. Du coup, des fois, je me rattrape. Là, il y a eu... Les étudiants en cinéma de cette année qui ont fait plein d'appels pour des acteurs. J'ai postulé dans quelques rôles et voilà, c'est ma manière à moi de faire mon théâtre, quoi.
Je vois. Après, concernant Thème Ciné, si ça peut te rassurer, parfois, nous, on finit même pas l'émission avant de la commencer. On n'a pas tout écrit.
Oui.
Improvisation.
Exactement.
Les fiches Wikipédia que tu screenshots comme un oui, alors il a fait ça, il a fait ça. c'est assez fou. Donc ça, voilà, ça c'est un de mes films préférés. C'est loin d'être le meilleur de la filmographie des films Coen, c'est loin d'être l'un le meilleur film du monde, mais c'est le premier qui m'a marqué, donc c'est un de mes préférés, c'est celui que je regarde à chaque fois. J'essaie de le faire au moins une fois par an.
Et du coup, est-ce que tu pourrais raconter un petit peu l'histoire du film, ce qui se passe, pour donner envie aux gens de regarder ?
L'histoire, en fait, c'est tout simple. c'est trois détenus qui vont s'évader d'une colonie pénitentiaire parce que il y a Georges Clooney, j'ai oublié les noms des persos, pardon, qui doit retrouver sa femme pour l'empêcher de réépouser quelqu'un. Et je viens de me rendre compte que j'ai complètement spoilé le film sans le vouloir. C'est c'est une catastrophe. Mais et il doit aussi récupérer un magot d'un cambriolage qu'il a effectué et c'est ce pourquoi il est en prison. Et du coup, il va devoir s'évader avec ses deux co-détenus qui vont et ces deux-là vont vivre une grande aventure à travers les États-Unis. En gros. Pour pas rentrer plus dans les détails, déjà que je viens de faire une énormité.
Alors c'est marrant, moi, parce que je suis imperméable au style des frères Coen.
Ah ouais,
c'est-à-dire, j'en ai vu une dizaine de frères Coen, et à chaque fois, ça m'ennuie, mais d'une force.
Ah ouais?
Oui, le seul qui m'a pas ennuyé, c'est celui qui est sur Netflix, Ballad of quelque chose.
Ah oui, il me semble que compliqué. C'est qu'un seul des frères Coen qui a fait ça.
Alors non. Justement, ça, c'est le dernier film des deux Coen.
Ah.
Et ensuite, on en avait parlé dans le dernier podcast, justement.
Oui, ils font des films séparés maintenant.
Oui. Il me semble que Joël a fait une adaptation de Macbeth sur Apple TV+, que j'ai pas du tout aimé. Et il y a Ethan qui a fait un road trip entre deux amis dans les États-Unis avec Pedro Pascal et Matt Damon.
Bah écoute, peut-être.
C'est... qui sort en septembre. Moi, personnellement, ça me donne très envie.
Bah,
allez écouter
pas.
Notre podcast du dernier mois pour en entendre plus.
Mais donc, ouais, t'es complètement imperméable.
Ben oui, c'est bizarre.
The Big Lebowski, par exemple.
Non, celui-là, je l'ai jamais vu, mais j'ai vu Fargo.
Fargo.
J'ai
il est
vu,
bien.
Excellent Miller's Fargo. Miller's Crossing,
j'adore.
Je
pense que ça fait partie de mes réalisateurs préférés. Hein. Pour l'instant, de tous leurs films que j'ai vus, il n'y a pas, un seul des films de leurs films qui m'a vraiment déçu. Il n'y a que. No Country for Old Men, justement, qui m'a un petit peu plus ennuyé que les
c'est
autres.
C'est souvent dit comme étant leur plus grand chef-d'œuvre.
Il a eu l'Oscar
du meilleur film.
Ah non, mais c'est complètement mérité. C'est juste celui-là, effectivement, je suis un peu moins... C'est pas mon préféré, mais je reconnais complètement ses qualités.
Et du coup, ce serait lequel ton préféré de ces réalisateurs-là
Bah, du coup, forcément, il y a celui-là, il y a O Brother, mais c'est un peu hors catégorie. Et non, je pense que ça serait... je pense que ça serait The Big Lebowski. Parce qu'il est tellement... Il est tellement hors du temps, celui-là. C'est un humour très absurde, hein, aussi. Hein. Faut y entrer calmement. Mais moi, j'y suis allé tout de suite. Puis surtout, ça m'a marqué parce qu'on est allé le voir avec une sortie de classe. Parce qu'on était... il voulait, au programme du lycée, il voulait nous introduire un peu au cinéma.
Mmh.
Et ça c'était le deuxième film qu'on est allé voir après Blowout. de Brian De Palma, que je recommande aussi parce que j'adore, j'aime beaucoup. Et vraiment, celui-là, c'était aussi une bouffée d'air frais parce que j'avais tellement perdu l'habitude de voir ce genre de film. Ça a été, c'était une excellente séance pour moi.
Je vois.
J'aime beaucoup.
Ok.
Mais merci beaucoup. Enfin,
bah de rien.
Et c'est tu restes avec nous ?
Bien, ouais, je vais rester avec vous. Je reste avec vous, même si bon, l'actualité du cinéma compliquée, hein, parce que ça coûte cher le cinéma, hein, même oui, en tant qu'étudiant.
Final,
du coup, forcément,
une séance, extrêmement cher.
Pas trop le temps d'y aller, mais on essaie.
Je trouve qu'au CGR, ils sont. Enfin, faut aller au petit cinéma des petites villes parce que au CGR, ils sont assez chers quand même, je trouve.
Ouais. C'est vrai. C'est
faut aller le ou alors faut y aller le matin.
Ou le lundi et le jeudi, c'est moins cher. Aussi.
Ouais.
À 8h se faire le film Mario Bros, là, allez.
Non, mais pas forcément à 8h, à 10h, oui, à 11h, c'est encore...
Les séances commencent à 10h et la dernière, c'est à 22h, généralement.
Oui, donc, voilà. Voilà.
On va parler des sorties du mois, du coup. Ouais. Donc, le MCU, Marvel Cinematic Universe, est de retour ce mois-ci, avec le troisième et dernier volume des Gardiens de la Galaxie, toujours écrit et réalisé par James Gunn. Les gardiens de la galaxie vivent désormais sur Nowhere qu'ils ont aidé à reconstruire. Peter Quill est toujours très marqué par l'absence de Gamora, ils sont attaqués par Adam Warlock, la création surpuissante d'Ayesha, la prêtresse de Souverain. Rocket est gravement blessé. Pour le sauver, les gardiens vont devoir retrouver celui qui a jadis modifié le corps de Rocket, le maître de l'évolution. Et si vous n'avez pas vu les deux premiers volumes, vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire, mais c'est normal.
Oui, il faut généralement voir les premiers films avant de voir le 3. J'ai fait cette expérience-là avec le dernier Scream. C'est Scream 6, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
C'est Scream 6. Bah, écoute, j'avais pas vu le 2, 3, 4, 5. J'avoue, j'ai pas trop compris. Donc, effectivement, je conseille de voir les deux premiers.
Surtout le MCU, quoi, parce que vraiment...
Mais après, les Gardiens de la Galaxie, c'est assez à part encore. Mais au moins, voir le volume 1 et 2, parce que vraiment...
Bah, pour les Gardiens de la Galaxie,
tous les voir, les Gardiens de la Galaxie.
Oui.
C'est sur Disney+.
C'est vrai. Allez le voir. Et au Brother, c'est sur Canal+, d'ailleurs. Aussi.
Ah oui ?
Oui.
Ah oui ? Bah écoutez, ne filez pas votre argent à Canal+.
Déjà, les Gardiens sont les meilleurs films du MCU, donc je vous les conseille, voilà, allez voir les volumes 1 et 2. Et le volume 3, ça continue sur la lancée des deux premiers films. C'est vraiment superbe, et ça émeut vraiment aux larmes, donc vraiment...
À ce point-là ?
Préparez-vous, oui. Les Gardiens de la Galaxie, c'est vraiment les seuls films du MCU qui sont... gigatriste et surtout super bien écrit parce que ça fait partie des seuls films où il y a un vrai scénariste et vrai réalisateur derrière, James Gunn du coup qui va aller diriger DC à partir de maintenant du coup. Et déjà j'adore James Gunn, je trouve que dès qu'il fait un film super héroïque, les personnages sont géniaux. À chaque fois il arrive à introduire plein de personnages, une dizaine quasiment, et à chaque fois on s'attache à eux et puis dès qu'ils partent on est triste. Alors là, comme c'est le dernier des Gardiens de la Galaxie, c'est extrêmement triste pour le coup. Mais c'est vraiment génial, les personnages sont géniaux. C'est allez le voir, c'est en salle à partir du 3 mai. Et c'est déjà en salle du coup quand vous écouterez.
Ça, le truc c'est que James Gunn, ce qui est bien avec lui, c'est que on peut lui reprocher des tas de trucs. Hein. Effectivement, ses histoires peuvent se ressembler, son style est très visible. Hein. Quand tu vois un film de James Gunn, tu regardes le premier, tu regardes le dernier qu'il a fait, son style reste là.
Mais ça, pour moi, c'est bien, parce que dans un univers de super-héros où c'est tellement plat généralement, voir un style, ça fait du bien. Quoi.
Le truc, c'est qu'en fait, James Gunn, lui, un truc qu'on peut pas lui reprocher, c'est que lui, au moins, il aime ses personnages. Tu vois, il va faire en sorte de bien les écrire, chacun, d'essayer de plus les développer au maximum. Et c'est pour ça que je pense que cette continuité des Gardiens de la Galaxie, elle fonctionne. Oui. Et d'ailleurs, c'est les derniers, en fait, qui m'ont marqué de films Marvel. Parce que sinon, avant ça, c'était Black Panther, le premier... Waouh, qu'est-ce que c'était chiant. Alors que James Gunn, voilà, il arrive à nous faire ressentir de la compassion pour ses personnages. On rigole, on est triste, on aime quand il y a de l'action.
Par exemple, quand on compare la trilogie Ant-Man avec celle des Gardiens de la Galaxie, ça n'a rien à voir. Quoi.
J'ai vu que le premier est très cool, je trouve.
Ant-Man ?
Ouais.
Ouais, bah, faut que tu vois le deuxième et le troisième, du coup. Parce que vraiment, en fait, on ne s'attache pas au personnage. Moi, si demain Ant-Man y meurt, on n'en a rien à faire. Tandis que les Gardiens de la Galaxie, c'est quelque chose.
Oui,
c'est quelque chose.
Ouais. Puis en plus, c'est un peu le concept là de found family, ce qu'ils appellent. Genre...
Oui. C'est très attachant.
Oui, toujours.
Ça, donc aussi, regardez tout simplement la filmographie de James Gunn. Hein. C'est aussi plus large. Genre, son Suicide Squad, je l'avais beaucoup aimé.
Oui, et c'est pour ça que j'ai confiance en lui pour DC. Parce qu'il a fait Suicide Squad qui était génial. Et... Bon, bref.
Bref.
Voilà.
Alors, Fast and Furious 10 sera un... oui. Sera un... est en salle depuis le 17 mai. Alors, je suis désolée.
Il y a la bande annonce qui est sortie, donc allez la voir si vous avez envie de regarder le film. Enfin, envie d'avoir une petite, un petit avant-goût. Et surtout, c'est réalisé par un Français. C'est rare pour un blockbuster, Louis Leterrier.
Ah.
Qui, en fait, le réalisateur s'est fait virer de Fast and Furious, Justin Lin, une semaine avant le tournage. Du coup, Universal, le studio, a dû trouver rapidement quelqu'un. Ils ont trouvé Louis Leterrier.
Très bien, voilà. C'est un faiseur ou c'est quelqu'un qui a son style ?
C'est un faiseur. Il a fait une fois une série sur Netflix qui avait son style. Elle s'est fait annuler parce que ça coûtait trop d'argent. Depuis, c'est un faiseur. Et voilà.
Non, Netflix qui abandonne les idées originales. Non.
Oui, oui. Mais c'est trop triste sa carrière, Louis Leterrier, parce que toute sa vie, il a suivi les ordres du studio et tout. Une fois, il fait une série avec son style, elle se fait annuler parce que personne n'a regardé. C'est terrible.
Bref. Non, ça, c'est, les séries risque, sont souvent annulées sur Netflix. Hein.
Oui. Oui, bah quand c'est pas un carton, généralement, c'est dur.
Même des fois, ça a du succès et ils annulent quand même.
Ouais, c'est vrai.
Enfin, les Wings, bon, c'est pas un truc exceptionnel, mais ça avait quand même eu beaucoup de succès et ça a été annulé, quoi. Enfin, c'est étonnant.
Le truc, c'est qu'il y a aussi la manière dont l'offre est proposée. C'est-à-dire que Netflix, c'est une bonne plateforme, tu vois. Ça permet, y a, des fois, ils ont des catalogues très riches, il y a des très bons films, des très bonnes séries sur Netflix. Le truc, c'est que... Regardez l'offre. Comment est-ce que tu veux voir tout ce qu'il y a ? Donc forcément, les gens ont pu forcément passer à côté.
Mmh. Alors, Fast and Furious.
Oui, donc du coup... donc, le rythme du film. Après bien des missions et contre toute attente, Dom Toretto et sa famille ont su déjouer, devancer, surpasser et distancer tous les adversaires qui ont croisé leur route. Ils sont aujourd'hui face à leur ennemi. Le plus terrifiant et le plus intime, émergeant des brumes du passé, se revenant assoiffé de vengeance et bien déterminé à décimer la famille en réduisant à néant tout ce à quoi, et surtout à qui, Dom est jamais tenu. Oui, je suis désolée. C'est vraiment improvisation, là, pour le coup. Et donc, voilà.
Toujours Vin Diesel, toujours, en Dominique Toretto. Il y a toujours le même casting. Il y a John Cena qui revient dans le frère de Dominique Toretto, je crois. Je ne sais plus. Dominique Toretto, c'est le personnage principal. Diesel. Mais c'est Vin Diesel. Hein.
Ah oui, ok.
Il y a au casting, il y a Jason Momoa.
Aquaman.
Voilà, qui incarne le méchant. Il y a aussi Brie Larson qui joue Captain Marvel dans le MCU. Qui enfin va faire autre chose que Marvel. Parce que c'est dommage, parce qu'elle faisait plein de petits films indépendants. Au début, c'était une bonne actrice. Puis depuis qu'elle a signé pour Captain Marvel, elle fait plus de films, donc, à part les Captain Marvel. Donc, c'est dommage.
C'est ça, le contrat d'exclusivité, hein.
Ouais, non, mais je pense que juste elle a envie de se reposer. Puis,
aussi.
Voilà.
Bon, elle a du succès avec Captain Marvel.
C'est ça,
donc...
c'est ça.
Alors, enfin, c'est
un salle le 17 mai, donc. Ah ben, tu l'as déjà dit.
Oui, je l'ai déjà dit.
On le répète pour nos auditeurs, bien sûr.
Voilà, donc ça y est, vous pouvez aller voir.
Alors, vous vous souvenez peut-être de Spider-Man New Generation, film d'animation sorti en 2018. Centré autour de Spider-Man dans sa version Miles Morales. C'était un très bon film, allez le voir d'ailleurs, je ne sais pas où c'est disponible.
Dans mes souvenirs, il était disponible sur Netflix à un moment.
Oui,
mais comme leur catalogue il change toutes les deux semaines,
Je ne vais pas aller vérifier, mais voilà. Et il était vraiment génial. Et du coup, il y a sa suite qui sort le 31 mai en salle et qui est intitulée Across the Spider-Verse. Après les événements du premier film, Miles Morales, qui vit sa vie de super-héros, devra se rendre dans le Spider-Verse pour protéger son monde. Accompagné de Gwen Stacy et de Miguel O'Hara, le Spider-Man de 2099, il découvrira de différents Spider-Man et devra faire face à de nombreux dangers. Voilà, le 31 mai. J'ai vraiment très très hâte, surtout que c'est que la première partie du deuxième film. Alors ça durera 2h20, ce premier film de Across the Spider-Verse. Across the Spider-Verse. Et la suite sortira en mars 2024. Ça s'appellera Beyond the Spider-Verse.
Wow.
Et généralement, moi, vous savez...
C'est comme Far From Home.
Oui, ça me fait penser un peu, vous savez, à Pirates des Caraïbes. Le 2 et le 3 ont été tournés en même temps et tout.
Ouais.
Et ça a donné des films incroyables.
Oui.
Donc là, je sens que ça va être la même chose.
Enfin, généralement, quelqu'un qui aime le 2 et le 3, bon sang.
Généralement, les réalisateurs, quand ils prévoient deux films en même temps comme ça, c'est qu'il y a... Ça sent bon. Ça sent bon.
C'est ça. Après, moi, j'avoue, je n'ai pas fait mes devoirs. Je n'ai toujours pas vu le premier.
C'est pas grave. Ben, tu as jusqu'au 31 mai pour le voir.
Super.
Voilà. Et la dernière sortie du mois, donc, c'est une série.
Oui, alors on va parler de La Reine Charlotte, un chapitre Bridgerton qui est sorti le 4 mai sur Netflix. Donc c'est une série, c'est un spin-off de l'univers des chroniques de Bridgerton. Et cette série revient sur des personnages emblématiques de la série, quand même, La Reine Charlotte, comme le dit le titre. Alors, au moment de la série, elle a 17 ans. Et elle vient de... C'est une jeune femme qui vient de la noblesse allemande et qui est forcée d'épouser le roi d'Angleterre contre son gré. Mais qui finalement s'attache à lui, même s'ils ont une relation plutôt compliquée. Et Charlotte se rend compte que la monarchie britannique n'est pas du tout comme elle l'imaginait. Mais la série fait aussi des sauts dans le temps pour montrer les problèmes de hiérarchie qui se passent juste après la saison 2 des chroniques de Bridgerton. Parce que la reine, elle a beau avoir 15 enfants, elle n'a aucun petit-enfant.
Ah oui.
Enfin, non. Pas exactement. Sa seule petite-fille meurt.
C'est compliqué.
Ouais. Donc bon,
On vous a prévu que c'était une zone spoiler. Oups.
Non, non, c'est dès le début. Non. C'est dès le début.
Bon, bah c'est pas un spoiler alors.
C'est vraiment... Je ne spoil rien. Enfin,
Bien sûr.
Voilà.
Okay. En même temps, comment ne pas spoiler alors qu'il y a déjà deux saisons et un spin-off du coup qui est sorti, oui. Qui sont sortis, c'est compliqué de pas spoiler quoi.
Et alors, il y a aussi d'autres des personnages plus âgés que la série, enfin pas les la fratrie des Bridgerton qui apparaissent. Donc on a Lady Danbury et Violet Bridgerton, donc la maman. Et alors franchement, je l'ai regardé et honnêtement, je m'attendais pas à ça, mais c'est vraiment bien.
Ah oui.
Ouais. Parce que les chroniques des Bridgerton, bon, la saison 2, j'avais trouvé que c'était un petit peu... Bon, c'est un peu cliché, quoi. Mm-hmm. Mais vraiment, c'est étonnant. Mais c'est... J'ai trouvé ça... Déjà, c'est très drôle. Enfin, vraiment, je sais pas si vous l'avez regardé, non.
Malheureusement, j'ai pas regardé. Ça m'a pas trop donné envie, Bridgerton. Mais en vrai, j'ai vu, il y avait beaucoup de fans et tout, donc ça doit être bien. Je sais pas.
Ouais, ben, la chronique des Bridgerton en soi, c'est bien. Mais je trouve que, enfin, les histoires d'amour, bon... Pff...
Ouais, ça tourne.
C'est un peu cliché, quoi.
Ouais, je vois.
Désolée de dire, ça pourrait être écrit par... Enfin, c'est une fiction Wattpad, quoi. Hein.
Ah oui, c'est une série historique ou c'est tout fictif?
Alors, c'est historique un peu, enfin... Mmh.
Historique comme en mode fiction.
Comme ils le disent dès le début, ils reprennent des éléments historiques, mais d'accord. À aucun moment ça ne reprend la vraie histoire.
D'accord, d'accord.
À aucun moment.
Et voilà.
Mais bah, par exemple, les problèmes de succession de la monarchie, c'était un fait réel. Ça s'est vraiment passé comme ça. Et voilà, mais en vrai, j'ai trouvé que c'était très drôle, la série, même, et la fin était très émouvante aussi, même sans être triste, voilà. C'était très beau.
D'accord.
Donc si vous n'avez pas vu les chroniques des Bridgerton ou la série sur la Reine Charlotte, bah, je peux que vous conseiller d'aller regarder.
Sur Netflix.
Oui, sur Netflix.
Voilà, c'est tout pour le sortie du mois. Il y a d'autres films qui sortent ce mois-ci, mais on n'a pas pu en parler, parce qu'on ne peut pas parler de tout, malheureusement.
Il faut faire des choix.
Exactement. On ne présente que le meilleur pour nos auditeurs. Ça rime, ça rime.
Enfin, Fast and Furious 10, quoi.
Donc, c'est peut-être le meilleur, on ne sait pas.
Oh là là, je me la joue connard élitiste.
Généralement, quand il commence à y en avoir 10, bon.
Mais après, ils vont arrêter au 11, ils l'ont dit. Le 11, oui. Il sortira en 2025. Et
ce
sera la fin.
Police Academy, il y en a 7. Hein. C'est...
Ouais, mais c'est beaucoup moins connu que Fast and Furious, pour le coup.
Ouais, c'est sûr. Bah, à l'époque, non, c'était un gros truc. Hein.
Ah ouais?
Gros succès, je veux dire.
Moi, je me rappelle Fast and Furious, il y avait la grosse hype à un moment. Là, un petit peu moins. Mais quand le 7 était sorti, je me souviens, on en parlait beaucoup, là, avec oui. See You Again et tout ça, là.
Le 7, mais ensuite, le 8, le 9, le 10, ils sont sortis un petit peu.
Ouais, ouais. Le 8, personne n'en a parlé. Le 9, c'est sorti après le Covid, ouais, donc personne n'en a parlé.
Je pense qu'en fait, les gens... Peut-être que les gens commencent à s'en lasser aussi, quoi.
Ouais, ouais, après, après, c'est le 10, tu vois, c'est un chiffre qui marque.
Oui,
le 10,
puis c'est pas une franchise comme le MCU où les gens en parlent et il y a des théories et tout ça. C'est un truc, les gens vont le voir, mais ils n'en parlent pas ailleurs, quoi. Mm. C'est-à-dire, il n'y a déjà pas de gros fans de Fast and Furious, quoi. Là.
Disons qu'en fait, c'est toujours une promesse de bonne action, j'ai l'impression, tu vois. C'est,
oui,
c'est, c'est de l'action qui part dans le n'importe quoi, mais c'est dans le bon n'importe quoi, tu vois.
Voilà,
c'est en mode, waouh, ouais, impressionnant.
C'est un peu comme
les
John Wick.
Les cascades de voiture.
Ouais, ça. C'est un peu comme John Wick, c'est-à-dire, il n'y a pas de gros fans, il n'y a personne qui en parle à côté, quoi, mais on va le voir, quoi.
Oui, voilà.
Après, John Wick, c'est un peu plus artistique que Fast and Furious.
Ça. Je ne sais pas vu non plus.
Ah,
donc,
c'est pas grave. C'est pas grave.
Le seul Fast and Furious que j'ai vu, je me souviens qu'il y a une course-poursuite contre un sous-marin sur la glace.
Oui, donc, c'est dans le 8. Un sous-marin nucléaire, d'ailleurs.
Waouh.
Dans le 9, ils sont allés dans l'espace, carrément.
Ah oui?
Mais bref. Longue histoire. les actualités du mois, vous êtes toujours sur Radio Campus Po. Je sais pas s'il fallait que je le rappelle ou pas. Mais non, je... non, d'accord. Les actualités du mois, cinéma et un petit peu série. Il y a eu une dernière bande annonce pour le prochain film de Christopher Nolan, réalisateur donc, de la trilogie Dark Knight, d'Inception, Interstellar, qui est sorti. Le film s'intitulera Oppenheimer, comme on le rappelle probablement tous les mois, vu qu'on en parle sans arrêt, comme oui. Avatar, ça revient sans arrêt. Et s'intitulera Oppenheimer, donc, et suivra de près la vie sur 3 heures de l'inventeur américain de la bombe atomique, Robert Oppenheimer. Alors la bande annonce est vraiment incroyable, je vous incite à aller la voir, mais surtout... Parlons du casting. Alors, il y a Cillian Murphy en Oppenheimer, donc qui a joué le rôle principal de Peaky Blinders, vous voyez forcément qui c'est. Il y a Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Rami Malek et Kenneth Branagh et bien d'autres.
Et bon Florence casting. Pugh, elle fait combien de films en fait, elle n'arrête pas là.
Là, elle n'arrête pas.
Elle est overbookée, la pauvre.
Exactement, et on va en reparler plus tard. Je ne dis pas dans quel film, mais dans ce podcast.
En même temps, elle est géniale, nous.
Oui, c'est une très bonne actrice. Et là, elle en a profité qu'elle devienne connue et tout ça pour sélectionner les meilleurs projets. Donc, c'est génial. Voilà, Oppenheimer, en salle le 19 juillet. Voilà.
Okay.
Voilà. On a aussi, alors, encore le MCU, il y a les 4 Fantastiques qui sortira, je crois, en février 2025, donc qui sera la version 4 Fantastiques du MCU, et qui commence à tourner donc, en janvier 2024. Donc, il va sûrement y avoir une annonce du casting prochainement. Il y a eu des rumeurs comme quoi il y aurait Adam Driver et Margot Robbie au casting.
Ah ouais ?
Alors, moi, honnêtement, j'irai le voir forcément, mais ça ne m'intéresse pas plus que ça, puisque les 4 Fantastiques, ça ne me passionne pas. Mais avec ce casting, s'il y a vraiment ces noms-là, là, ça commence... Ça me fait... Comment dire ? Ça me fait lever un sourcil, quoi. C'est vraiment... Voilà. Voilà, voilà.
Ok.
Et une des grosses actualités aussi de ce mois-ci, c'est une grosse grève des scénaristes à Hollywood. Ça faisait un moment qu'ils menaçaient que si ils avaient fait des négociations le 1er mai, qu'ils n'ont pas abouti à un accord. Et donc, ils se sont mis en grève. Donc, alors, ils réclament une montée des salaires de la part des plateformes de streaming. Selon eux, ils sont de plus en plus nombreux à ne gagner que le salaire minimum. Et ils dénoncent aussi la précarité de leur emploi actuellement à cause des plateformes de streaming. Parce que les séries sont de plus en plus... de moins en moins d'épisodes sont de plus en plus courts, donc ça leur fait beaucoup moins de temps d'écriture et donc de temps rémunéré. Donc ça ne leur donne pas de garantie de travail toute l'année. Et le système des sites de streaming, il ne joue pas en leur faveur. Parce qu'avant, quand c'était en DVD, les films, les séries, tout ça, ils gagnaient un pourcentage des ventes de DVD. Tandis que maintenant, avec le streaming, ils reçoivent une rémunération fixe chaque année, même s'ils ont écrit une... série à succès, donc c'est-à-dire par exemple, c'est au même niveau Stranger Things, Bridgerton que
une série inconnue, quoi.
Ouais, voilà. Alors, pour l'instant, cette grève, elle ne devrait pas impacter les séries ou les films en production, mais alors, ce qui est vraiment impacté pour l'instant, c'est les talk shows américains. Et parce que les séries, elles sont écrites en avance, tandis que les talk shows, ils sont écrits le jour même. Mais si la grève se prolonge, il se pourrait que certaines séries soient retardées. Et alors, par exemple, il y a notamment eu le nom de Stranger Things qui pourrait...
Oui. Bah parce qu'il faut comprendre que une série ou un film s'écrit par quelqu'un. Oui. Et que si ce quelqu'un est en grève, ça n'avance pas.
Non.
Du coup, tout ce qui est en tournage actuellement continue. Il n'y a pas besoin de trop du scénariste ni rien. Mais tout ce qui n'est pas encore en tournage, là, c'est à l'arrêt. Et il faut vraiment comprendre que c'est tous les scénaristes. Ce n'est pas 50% qui sont en grève ou voilà quoi. Il y a une grève gigantesque. Et donc, si ça ne dure pas longtemps, par exemple, si les studios acceptent de mieux les payer...
J'espère quand même.
Il faut voir parce que les studios ne veulent pas changer de position.
Attends, t'as vu le budget des effets spéciaux de Disney ?
Alors, c'est sûr. C'est exactement ce que disent les scénaristes. C'est-à-dire, il y a de l'argent pour d'autres choses, mais pas pour nous. Voilà.
Bien sûr.
Puis j'ai lu, il y a des contrats aussi un petit peu bizarres. C'est-à-dire que... ils peuvent changer d'écriture en plein milieu.
Oui. Mmh.
Donc du coup, encore une fois, ça les précarise. Et ils ne veulent pas changer ce type de contrat. Et, c'est ce qu'ils voudraient demander, c'est arrêter de changer en milieu. Ou mettre plein de scénaristes pour un même truc.
Oui.
Alors que voilà. Et ils ne veulent pas changer, ils restent sur leur position, les studios. Donc,
Et surtout...
Des studios milliardaires bordés, je suis sur le cul.
Et il y avait déjà eu une grève comme celle-ci en 2007 et 2008. Et ça avait... Alors souvent les gens disent qu'il y avait eu une grosse baisse de qualité générale dans les séries et un peu les films à ce moment-là.
Oui.
Et ça avait duré la moitié de l'année, 150 jours je crois. Donc imaginez s'il y a...
Ils avaient été victorieux ou pas ?
Moyennement, mais assez pour qu'ils sortent de grève, quoi. C'est-à-dire, c'était pas un triomphe total, mais voilà, ils avaient eu quelques petits avantages, je sais plus exactement quoi.
Forcément, c'est à l'usure qu'ils les ont. Ils peuvent pas avoir 100% de leurs revendications parce que les gros studios les ont à l'usure. Eux, ils ont de l'argent, ils s'en foutent. Mais les scénaristes, s'ils sont en grève, ils perdent des jours de salaire.
Ce que les scénaristes avaient peur, c'est que les studios utilisent de l'intelligence artificielle pour écrire les scripts, en fait.
Mais je crois qu'ils parlent de le faire. Hein.
J'ai vu que les studios prévoyaient de faire écrire des scripts par intelligence artificielle, puis une fois qu'ils soient finis, attendre que la grève soit finie pour demander aux scénaristes de corriger l'intelligence artificielle.
Mais c'est stupide. C'est stupide parce que une intelligence artificielle, d'où son nom, c'est artificielle. À aucun moment, ça n'a d'émotion.
Non,
voilà. Ou alors ça a des émotions selon ce que son algorithme a dit que c'était, ce que c'était qu'une émotion.
Ouais, puis en fait, il n'y a même pas besoin d'avoir un débat. C'est-à-dire, même si l'intelligence artificielle écrivait des bons scripts, c'est toujours mieux d'avoir un script écrit par un humain.
C'est assez important logique, parce que, tu vois, cette grève des scénaristes, elle n'est pas forcément soutenue par le public.
Personne ne la connaît.
Aux États-Unis, je parle. Je parle pas dans le monde. Mm-hmm. Je parle, vu qu'elle touche surtout les États-Unis.
Oui, oui.
Aux États-Unis, t'as des réactions assez violentes, en mode « Ah, libérer les films, ça appartient au public, etc. » Mais calme-toi. Bon,
après, aux États-Unis, c'est les Américains, quoi, aussi.
Oui, enfin, voilà, c'est ça.
Pour eux, c'est juste qu'ils veulent pas travailler, quoi. Enfin,
Vas-y, tu demandes juste un peu plus de considération, un salaire un peu au-dessus du minimum, parce qu'il y en a même qui sont payés en dessous du minimum, parce que pourquoi se gêner, hein, qu'est-ce qu'ils vont faire, oh, ils vont pleurer, c'est ça, mais sous prétexte que tu demandes un peu plus de considération et un salaire un peu plus élevé, ça y est, c'est le communisme, donc voilà, c'est à un moment, nous ça va, parce que on aime bien le cinéma, donc en France on n'est pas assez éloigné de tout ça, mais aux États-Unis si, c'est quand même important. C'est pour ça que j'espère que cette grève sera victorieuse, même si le combat s'annonce extrêmement
compliqué.
Mais
moi j'espère qu'elle sera victorieuse et courte, et à mon avis elle sera aucune ni nulle ni l'autre, donc
Ouais, j'avais la grève de 2007-2008 et tout ça avait engendré aussi une montée de la popularité de la télé-réalité.
Bon, on va arrêter la grève directe là, alors.
Battez-vous.
Oui, s'il vous plaît.
C'était une blague.
S'il vous plaît, les studios, donnez-leur.
Passons à une autre actualité. Il y a 2 ans sortait Dune, adaptation du classique de science-fiction par Denis Villeneuve, mais le film ne couvrait que la moitié du livre, alors l'autre moitié, elle arrive en fin d'année, et la première bande-annonce est sortie, donc on va aller la voir, bien évidemment. Et on y retrouve le casting du premier film, donc Timothée Chalamet et Zendaya en rôles principaux, entourés de Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Dave Bautista, mais d'autres acteurs incarnent de nouveaux personnages, Florence Pugh, encore, Léa Seydoux et Austin Butler, qui était l'acteur qui incarnait Elvis l'année dernière. Et ça va être incroyable, du coup, le 1er novembre en salle, vous avez vu ce casting ? Mais c'est incroyable.
Moi je ne regarde pas les bandes annonces. Enfin, je regarde les bandes annonces que pour les films où bon, j'attends pas grand chose, mais sinon j'évite de regarder le plus.
Ah, moi c'est l'inverse justement. Moi les films,
je vais céder, c'est sûr, à un moment je vais céder.
Voilà, les films que j'attends beaucoup, je regarde les bandes annonces et tout. Les films, j'ai un peu rien à faire, je regarde même pas les bandes annonces. Je vois juste à peu près ce que c'est et puis j'y vais, quoi.
En fait, moi ce que je crains toujours, c'est que la bande annonce me fasse un résumé. Et c'est ce que je crains. Et comme elles sont toujours assez longues, en plus, les bandes annonces.
Mais ça, c'était il y a quelques années, mais j'ai l'impression que les studios ont bien compris que spoiler, c'est nul. Du coup, ils ont changé un petit peu.
Ah, c'est compliqué, tu vois. Parce que quand tu regardes, en fait, les anciennes bandes annonces, tu vois, il y a toujours. Même dans les bandes annonces, il y a une idée de mise en scène. Dans les anciennes. Dans certaines. Tu vois, la plus connue, je pense, à celle d'Alien. Tu vois, Alien,
je parle de la
bande annonce. Bah, en fait, tu vois une espèce de forme où tu crois que c'est une planète et tu vois plein d'extraits de tout l'équipage en panique avec le bruit de l'alarme de Alien en fond. Et à la fin, c'est juste le plan sur un œuf avec l'alarme qui qui sonne une dernière fois à fond, et juste le titre « Alien, dans l'espace, personne ne vous entend crier
ah ». Oui,
mais t'as pas de dialogue, on te montre quasiment rien, on te montre des gens en panique, on te montre
ouais, mais
un œuf.
Le problème, c'est qu'il y a une grosse différence, c'est qu'à l'époque, du coup, c'est les années 70, Alien, c'est qu'à l'époque, c'était juste projeté avant les séances au cinéma. Maintenant, il y a Internet, les réseaux sociaux et tout, ça, aujourd'hui... voilà, en fait, ça n'intéresserait pas grand monde, neuf avec une alarme au fond, quoi, tu vois.
Netflix, ils sont plutôt doués pour les bandes annonces, je trouve. Netflix, genre, c'était beau et pas mal.
Mais même, honnêtement...
Ça donne envie, et en plus, ils mettent souvent sur des bonnes, des mauvaises, de mauvaises voix. C'est-à-dire que là, les fans, ils font des théories et tout, et puis ce n'est pas du tout ça qui se passe.
Oui, souvent, j'ai l'impression qu'en regardant une bande annonce Netflix, que le film qu'ils vont faire va être bien, et en fait, il est complètement nul. Mais ça me l'est bien, quoi, la bande annonce.
Et du coup, pour répondre à ta question, à la question, oui, j'irai évidemment voir la suite, vu que j'ai vu le premier.
Ah, enfin, quelqu'un qui a vu Dune.
Oui, bah
c'est trop bien, Dune.
Bah, j'avais aimé celui de David Lynch, je voulais voir ce que proposait celui-là. Puis ça avait l'air d'être un univers complètement différent, avec une très bonne direction artistique. Moi, j'aime beaucoup les vaisseaux, j'avais bien aimé les tenues un peu bizarres comme ça.
Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu au cinéma un nouvel univers comme ça, bien distinct. C'est rare, quoi, ça, au cinéma.
Avec des beaux effets spéciaux.
C'est pour ça que j'aime bien Donjons et Dragons, le film qui est sorti en mars, je crois, ou avril, bon, bref.
Avril.
C'est parce que c'est tellement rare d'avoir un nouvel univers au cinéma et tout ça, c'est toujours des suites, tout ça, que quand il y a un nouveau... Ça fait du bien de la nouveauté, en fait.
Ça,
mais c'est encore mieux quand c'est réussi.
Il risque d'avoir un nouveau nom de Donjons et Dragons.
C'est pas sûr, parce qu'en fait, il a pas été assez rentable.
Oui, il a pas fonctionné beaucoup. Le budget était de 150 millions, et au box-office, il a fait 200 millions.
Il me semble qu'il avait rapporté genre 35 millions de plus que son budget. C'était un truc par là, mais c'était pas du tout suffisant pour les studios, ce qui est dommage.
Oui, parce qu'il faut savoir, par exemple, qu'un Avatar, par exemple, c'est profitable de 600 millions, quoi. Vous comparez ça à Dungeons & Dragons, c'est profitable de 30 millions, quoi. Bon, après, c'est pas trop comparable, mais vous voyez à peu près l'ampleur.
Avatar, ça m'emmerde, donc...
Je crois qu'on n'a jamais reçu quelqu'un qui aime Avatar dans ce podcast, en fait.
À
chaque fois qu'on parle à un invité d'Avatar, oh, c'est le pire film que j'ai jamais vu, c'est horrible.
J'ai toujours pas vu, j'en ai toujours vu.
Non, faut arrêter de déconner, c'est pas le pire film. Le pire film, ça existe pas, il y a des films qu'on déteste. Mais non, juste Avatar, c'est une démo technique de 3 heures, quoi, on s'emmerde, c'est tout.
Ne rentrons pas dans le débat Avatar, sinon...
Pas de soucis.
Là, on est à 37 minutes déjà, ça va être interminable. Camille.
Et du coup, alors, le 28 avril, le trailer de la préquelle des Hunger Games est sorti. C'est pas en mai, mais on n'a pas pu en parler en avril et c'est quand même assez important.
Oui.
Alors, son nom, c'est La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, qui est le titre du livre
aussi. Qui est un livre à la base,
oui.
De la même autrice que Hunger Games, d'ailleurs.
Oui, bah, c'est la suite, donc c'est ça
génial.
Me fait un...
Oui,
non,
oui, mais
c'est la préquelle.
Pour nos auditeurs qui vont se dire, oh, c'est le studio qui veut se faire de l'argent et tout, non, non.
Non, non,
oui, mais pas que.
Ouais, voilà, c'est ça.
Oui, mais bon.
En partie.
Ouais. Mais il y a quand même le livre, donc c'est
ça,
un peu...
C'est ça.
S'ils ont adapté les trois premiers, il faut quand même adapter celui-là.
Exactement.
Mais alors, cette fois-ci, du coup, on va replonger dans l'univers dystopique des Hunger Games. Mais cette fois-ci, pas de Katniss, de Peeta ou de Gale. Le film, il nous ramène à la 10e édition des Hunger Games. Et on voit le président Snow, jeune. Donc, le livre, il était sorti en 2020. Et le film, il sortira le 17 novembre. Et alors, dans cette histoire, Cornelius Snow, qui est alors encore lycéen au Capitole, il a pour mission d'être le mentor d'un des tribus des Hunger Games. Et il se retrouve avec celui qui a le moins de chances de survivre, Lucy Gray, la fille du District 12. Alors, au casting, Tom Bliss dans le rôle de Snow et Rachel Zegler, que vous connaissez peut-être pour avoir joué Maria dans l'adaptation de West Side Story.
C'est génial qu'elle joue dans un blockbuster comme ça, parce que je l'avais adoré dans West Side Story. Allez voir West Side Story, d'ailleurs, de Spielberg, 2021.
Mais elle va faire aussi la Blanche-Neige, non?
Oui, en mars 2024, ça sort.
Ouais.
Et c'est par le réalisateur des Amazing Spider-Man, d'ailleurs.
Oui. Voilà.
Blanche-Neige de manière originale ou Blanche-Neige à la Disney?
On ne sait pas trop, en fait. On ne sait pas trop si ce sera original, vu le réalisateur, ou si ça va être très classique. On n'a pas vu d'image.
Ouais, parce qu'ils sont en train de dire, refont beaucoup les mêmes films, mais en live action.
Il y avait La Petite Sirène, par exemple, qui sort ce mois-ci.
Ouais. On n'a pas pu trop en parler, mais voilà.
Voilà, on avait dit qu'il y avait beaucoup de sorties.
Disons que sortir La Petite Sirène après Avatar 2, quand ça se passe dans le même univers que l'eau, c'est un peu compliqué.
Ouais, hein. C'est dur, c'est dur.
Et alors, du coup, face au trailer, il y a eu de nombreux parallèles qui ont été faits, que ce soit par rapport aux différences entre les conditions où se passait dans la 74e, donc les trois premiers, versus au 10e, c'est totalement différent. Il y avait moins ce côté artistique, mise en scène. Mais aussi, il y a beaucoup de gens qui font des parallèles entre le moment où Lucy Gray fait une révérence et où Katniss le fait aussi dans la scène.
Ah oui, oui, entre le préquel et le vrai Hunger Games, quoi. Ça doit être génial, quand on a vu Hunger Games, de voir Sam et plus tôt, du coup, t'as dit que c'était la 10e Hunger Games. Ça doit être génial de voir tout ça.
Tandis que la saga principale, c'est la 74e et 75e édition.
Mm-hmm. Ah oui.
Moi, c'est dommage parce que je les ai jamais vus, les Hunger Games. Je vais les rattraper d'ici à Noir, du coup. Mais ça doit être tellement satisfaisant. En plus, ça fait, je sais pas, bien 10 ans qu'il n'y en a pas eu d'Hunger Games.
Le premier est sorti en 2012. Le dernier, en 2015. Il y a eu 4 films.
Voilà, donc ça fait 8 ans.
Ouais.
Donc, à mon avis, ça doit faire du bien quand on
Ouais, puis doit, enfin, moi, par exemple, j'ai jamais pu aller les voir parce que j'étais.
Trop petite.
J'étais un peu petite. Enfin, ouais. Je les avais lus. Je crois qu'en 2015, j'avais essayé de les lire. Ça m'avait fait peur. Enfin, parce que. Enfin, c'est horrible quand on est enfant. C'est un petit peu... C'est gore, quoi, pour un enfant.
Oui. Tu disais qu'il y avait, il y avait 4 films qui étaient sortis.
Oui, il y a 3 livres, mais 4 films. Parce qu'en fait, le dernier, comme Harry Potter, il a été divisé en 2.
Ah non, c'était pas pour ça. Oui, ah, d'accord, ok. Parce que je me disais, attends, 4 films en 3 ans, mais qu'est-ce qu'ils ont fait?
Oui, voilà, c'est ça.
Est-ce que tu m'as dit 2012-2015?
Je crois que c'est 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Ah, du coup, ça fait 5. Il y a eu une année au milieu où il n'y en a pas eu.
Je sais plus, mais...
Ça reste quand même très court.
C'est dans ces eaux-là, quoi.
Ça reste très court.
Début 2010, voilà. Comme
non,
ça.
Je crois que c'est sorti 2012 le premier, 2013 le deuxième. Il n'y en a pas eu en 2014. Et le troisième est sorti en 2015. Et peut-être que le dernier est sorti en 2016. Ou alors, il y en a un au début de l'année 2015 et l'autre à la fin de l'année.
Dans tous les cas, ça fait un moment.
Pour faire revenir. Oui, ça, c'est sûr. Et donc, voilà. Et donc, du coup, en attendant, faites comme Maxime, faut aller voir les 3 premiers films, ou alors vous pouvez aller lire les livres.
Ou mieux, faire les deux.
Voir les films, moi, je vais clairement faire les deux.
Voilà. Non, mais surtout que ça fait partie des grandes sagas des années 2000-2010, comme ça, littéraires, comme Harry Potter, justement, qui ont vraiment super bien fonctionné. Voilà. Ça doit être super bien.
Ça fait partie des films qui ont marqué une génération.
Tu vois, Moi, je me rappelle,
mais c'est pas comme Harry Potter ou Twilight là, qui vont faire où ils font refont juste la même chose
mieux,
en série.
C'est mieux, Hunger Games.
Là, ils réadaptent un autre truc nouveau. Quoi. Enfin...
Oui, parce que je sais pas si tu avais entendu parler, monsieur l'invité Tom, qu'ils vont refaire Harry Potter en série.
Ah oui ?
Avec un nouveau casting.
Mais en fait, ça faisait un moment qu'ils parlaient qu'ils voulaient faire une série dans l'univers HBO. Sauf qu'en fait,
Je suis sûr que c'est par pure passion artistique.
Oui.
Oui.
La passion avec le S de dollar.
Bien sûr.
La passion.
Bref, ça a l'air beaucoup mieux Hunger Games.
Surtout que là c'est un truc original. Puis franchement, enfin, j'ai lu le livre de la balade du serpent et de l'oiseau chanteur et franchement, c'est vraiment bien. Enfin. Après, moi j'ai avoué, Katniss, elle m'a un peu manqué quand même.
Ah oui, les personnages forcément.
Ouais. Voilà.
Ok. Et on va passer à la dernière partie de notre émission, une partie exceptionnelle qu'on n'a jamais fait. Pourquoi ? Puisque il y a les vacances.
Il y a vacances d'été, quoi, entre.
C'est ça, voilà. Il n'y a plus d'émission, du coup, pendant les vacances d'été, du coup.
Ouais.
Mais malheureusement, vous devez toujours aller au cinéma, nos auditeurs. Voilà.
Donc on va vous obliger.
Ouais, on vous oblige. Du coup, on va vous parler des films et séries qui sortent cet été. Alors, en juin, il y a The Idol, la série The Weeknd, on en avait parlé le mois dernier, qui sort le 4 juin sur HBO. Il y a Transformers Rise of the Beast, qui sort le 7 juin en salle.
Avec la voix de Mr. V.
C'est vrai, en VF, oui. C'est le retour des Transformers, bon, je ne les ai jamais vus, donc je n'ai pas d'avis. The Flash, le 14 juin. Mm-hmm. Asteroid City, le nouveau Wes Anderson, le 21 juin. On avait parlé ça avait un casting dément avec bref, ça a l'air génial. Élémentaire, le nouveau Pixar, le 21 juillet. Secret Invasion, la nouvelle série du MCU avec Samuel L. Jackson, le 21 juillet. Et le dernier sur Disney+, donc. Et le dernier Indiana Jones et le Cadran de la Destinée, réalisé par James Mangold, qui sort le 28 juillet. Donc ces films-là, on en a parlé le mois dernier, donc allez écouter notre podcast d'avril 2023.
Et alors, en juillet, le 7, ça, on va commencer le 7 avec Mission Impossible. Non, le 12, avec Mission Impossible alors, 7.
Il faut absolument aller le voir parce que le 5 et le 6, qui sont faits par le même réalisateur que le 7, sont exceptionnels. Vraiment, le 6, c'est le meilleur film d'action que j'ai vu de toute ma vie.
Ah oui ?
C'est incroyable, Mission Impossible 6. Et le 7, on dirait, vu la bande-annonce, qu'ils ont refait un petit peu la même chose, mais en encore mieux. Quoi.
Justement, où est-ce qu'on peut les voir, ces films Mission Impossible ?
Sur Paramount Plus.
Très bien, encore une plateforme. Ok.
Voilà, on va dire ça.
Et ensuite, donc, le 19, il y a deux films dont on a parlé plusieurs fois.
Oui.
Barbie, dont on a parlé le mois dernier longuement, très bien, tout vrai. Ça. Et Oppenheimer, dont on vient de parler plus tôt.
D'ailleurs, dont tout le monde a entendu parler que ça sortait le même jour. C'est fou, comme même les gens qui n'aiment pas le cinéma, ils ont entendu parler de Barbie et Oppenheimer qui sortent le même jour, j'ai l'impression.
En fait, Oppenheimer, il se fait connaître parce qu'il sort en même temps que Barbie.
Oui, oui, ben, t'as mieux d'ailleurs. Mais c'est drôle comment les deux films n'ont rien à voir, mais ils ont une connexion quand même.
Quoi. Les gens, ils vont rester, ils vont aller se cacher dans les toilettes là, entre les deux
films. C'est ça, c'est ça. Ça doit faire... Genre, si tu t'enchaînes les deux séances, tu passes d'une ambiance Barbie colorée, flashy et tout...
Un mec qui fait des bombes atomiques.
Le film de 3 heures sombre, à noir et blanc, un petit peu. Et
je
tout.
Crois qu'on se surhype énormément pour Barbie. Enfin, moi, je me surhype énormément.
Non, moi, j'ai confiance à la réalisatrice.
Moi, je pense pas. Hein, parce que vraiment, les 4 films de Dr. Marx, c'est génial. La bande-annonce, elle donne super envie.
En fait, Barbie, ce qui me donne confiance, c'est la réalisatrice. Je sais que c'est une vraie autrice derrière le film.
Ah,
et
oui,
pas juste le studio. Oui, Greta Gerwig, elle a réalisé des films vraiment...
Bah, elle n'en a pas fait beaucoup.
Elle en a fait deux.
C'est pour ça. Qu'est-ce qu'elle a fait ?
Lady Bird et Les 4 filles du Dr. Marsh.
Oui.
Et vraiment, les deux sont incroyables.
Ok.
Donc voilà. Et aussi, pour terminer ce mois de juillet, Haunted Mansion sort le 26 juillet.
Qui est un film Disney qui adapte une attraction de Disneyland, Haunted Mansion, Maison Hantée.
C'est le nouveau Pirate des Caraïbes.
Ça m'étonnerait vu la bande-annonce, il y a moins d'ambition.
Non, parce que comme c'est comme c'était aussi adapté d'une attraction.
Ouais, sauf que le problème, ouais. Est-ce que je sais pas si vous vous souvenez en 2021 Jungle Cruise qui est adapté d'une attraction. Est-ce que vous connaissez ce film ?
Non.
Bien sûr, de nom. Mais j'ai vu les effets spéciaux, t'inquiète.
Voilà, non mais du coup personne ne connaît ce film. C'est montré comment ça a été réussi, quoi. C'est-à-dire ça.
Alors que c'est Disney quand même.
Voilà. Donc voilà, c'est pas parce que c'est adapté d'une attraction que ça va être bien, quoi. C'était avec Dwayne Johnson, The Rock et Emily Blunt. Un film d'aventure, je l'ai pas vu, mais ça a l'air cool, mais j'ai toujours eu la flemme de le voir. Et les sorties d'août. Il y a Gran Turismo le 9 août, qui est une adaptation de la célèbre série de jeux vidéo de course. Il y a Blue Beetle, qui est le nouveau film DC, qui sort le 16 août. Il y a Hypnotic le 23 août, qui est un thriller avec Ben Affleck, réalisé par Robert Rodriguez. Il y a Equalizer 3 le 30 août avec Denzel Washington. Et il y a aussi la nouvelle série Star Wars, Ahsoka, donc qui est sur l'héroïne de Star Wars Rebels. L'héroïne de Clone Wars, pardon. Et un peu de Rebels, qu'on avait vu dans The Mandalorian saison 2, et qui a enfin sa propre série en live action, qui a l'air vraiment génial. Sur Disney+, ça sort en août. On n'a pas la date, mais ça sort en août.
Écoute, tant mieux.
Voilà. Ah, le podcast touche à sa fin. C'est triste parce que c'est le dernier avant un moment.
Hein. Ouais.
On part comme ça.
Mais déjà, c'est le dernier dans ce format puisque, puisque Camille et Carla, bon, Carla, elle est absente déjà, voilà. Mais Camille.
On part en Erasmus en septembre, donc on sera pas là avant janvier.
Voilà, donc jusqu'à janvier 2024, vous n'écouterez que moi, malheureusement. Je suis désolé. On trouvera peut-être des nouveaux gens. On les intégrera à l'équipe.
Vous la remplacez par une IA, c'est à la mode en ce moment.
Ouais, voilà.
Ouais.
Un robot, quand même.
Sympa.
Camille, à janvier 2024, du coup.
Oui.
C'est triste. Imaginez l'année prochaine.
Ouais. Bon, en vrai, je suis pas triste d'aller en Irlande.
Oui.
Il y a pire comme situation, effectivement.
Moi, j'aurais quitté Ciné Club Actif pour y aller aussi, pour être honnête. Bon.
Et donc du coup, ce podcast, vous pourrez le réécouter sur SoundCloud ou le site de Radio Campus Pro.
Et l'application disponible
oui,
sur l'App Store et le Play Store.
Oui. Allez la télécharger.
Tout comme Thème Ciné d'ailleurs.
Exactement.
Oui. Vous pourrez trouver tous vos podcasts préférés.
Écoutez notre émission. Si vous aimez le sport et le cinéma, on parle des films de sport. Alors, si vous aimez l'horreur et les génocides, on parle de ça et des films aussi.
Donc, ce que vous faites, c'est que vous écoutez Ciné Club Actu. Voilà. Et ensuite, vous écoutez Thème Ciné.
Mais c'est ce qui se passe le dernier vendredi soir du mois.
Et
c'est la soirée cinéma.
À 20h, oui, c'est vrai.
Nous, on passe à 20h et vous passez vers 20h.
À 21h.
Ouais,
on vous suit.
On est en premier. Voilà.
Eh, bah, en même temps, nous, on récupère ce qui reste. Hein.
Voilà. C'est triste, mais c'est la fin. Merci beaucoup de nous avoir écoutés depuis novembre.
Ouais.
Un plaisir d'avoir été invité.
Bah, merci d'être venu.
Merci
surtout.
D'être venu.
Merci d'être venu. Et on se dit à une prochaine fois. Ouais. Écoutez. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.